Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, le thème de l'universalité domine, traverse l'œuvre de notre invité Souleymane Bachir Diagne. L'universel est pour lui le fruit de la diversité du monde, de son union, et non une juxtaposition de cultures, de peuples notamment. De plus, l'universel part de partout, pense-t-il. Aucune région du monde ne peut décider de ce qui est universel. Il poursuit sa réflexion dans un nouveau livre qui s'intitule « Universaliser l'humanité par les moyens d'humanité » publié chez Albin Michel. « La tâche nous incombe de réinventer l'universel », écrit-il. Nous allons le voir et voir comment avec lui, dans ce nouveau numéro du magazine Idée, celui qui, pour vous, interroge ceux qui pensent le monde et qui accueille un second invité, Ulrich Mettende, universitaire, philosophe lui aussi. Il vient d'écrire « Du désir de vie », essai sur une écologie de libération en post-colonie, un livre publié chez Hermann. Bonjour Souleymane Bachir Diagne.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans ce magazine. Vous êtes un des penseurs africains les plus connus et reconnus aujourd'hui. Professeur de philosophie à l'Université Columbia à New York, il faut le rappeler. Bonjour Ulrich Mettende.
Bonjour.
Je suis ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Alors je sais que vous écoutez l'émission depuis longtemps.
Effectivement.
Donc c'est un honneur pour nous de le savoir. Et nous allons parler donc de ce livre qui a aussi un rapport avec ce que développe Souleymane Bachir Diagne sur l'universel. Souleymane, deux penseurs, deux poètes, deux écrivains dominent votre livre « Universaliser l'humanité par les moyens d'humanité ». Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Penseur, écrivez-vous, de la totalité du monde et de notre temps.
Oui, il est important de revenir à ces deux auteurs en les voyant comme des penseurs de notre temps. Parce que, vous venez de le dire, ils sont des penseurs de la totalité, ils ne sont pas simplement des penseurs de leur propre particularisme. Voilà deux auteurs qui sont identifiés au mouvement philosophique, poétique, politique de la négritude, c'est-à-dire, le mot même l'indique, il n'y a peut-être pas plus particulier que l'exigence liée à la notion de négritude, mais tous les deux estiment qu'au fond, la négritude, c'est simplement une revendication de l'universel. Et j'insiste sur le fait que Aimé Césaire a orienté toute son action en direction de ce qu'il a appelé un humanisme universel, deux mots qui sont importants dans mon travail, et que Senghor a toujours pensé que la visée ultime, c'était une civilisation de l'universel. Voilà donc un combat qu'ils ont mené pour la reconnaissance, combat qui est inscrit dans le mot de négritude, mais un combat qu'ils ont mené au nom de l'universel et pour un humanisme universel, et il fallait insister sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle ils sont, en effet, très présents dans le livre.
Car il s'agit, Souleymane Bachir Diagne, de réinventer l'universel.
Oui, ce titre d'ailleurs, « Réinventer l'universel », a été choisi pour l'exposition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps au musée du Quai Branly sur Léopold Sédar Senghor. En effet, ils estiment qu'il faut réinventer l'universel à la fin de l'universalisme. L'universalisme étant la notion que l'Europe est tout naturellement le lieu de l'universel et que l'Europe a tout naturellement mission d'apporter cet universel au reste du monde. Cet universalisme-là prend fin avec les décolonisations, qui sont une certaine manière de réinvestir, d'habiter le monde dans le pluriel des langues et des cultures, toutes équivalentes. Cette équivalence est importante, mais à partir de là, il ne faut pas se débarrasser de toute idée d'universel. Au contraire, la fin de l'universalisme doit être le moment où nous réinventons ensemble l'universel.
Alors, dans ce livre, Souleymane Bachir Diagne, vous revenez sur ce que l'on appelle la philosophie des Lumières, qui est à remettre en cause, en quelque sorte, selon vous.
Alors, la philosophie des Lumières est...
En tout cas, à l'angle, dans voilà, ce thème de l'universel.
Il faut comprendre que les Lumières, en tant que telles, ne sont pas à remettre en cause. Après tout, que nous dit la philosophie des Lumières ? Qu'il faut user de sa raison, que la raison est universelle et qu'il faut, sur la base de cette raison universelle, construire une humanité commune.
Pense par toi-même.
Pense par toi-même. Sapere aude est le terme latin que cite Kant. Il faut oser user de sa raison. Eh bien, la seule chose, il y a deux choses qu'il faut dire. Une fois qu'on a affirmé la validité des Lumières pour nous aujourd'hui, il faut rappeler deux choses. C'est que les Lumières, cette exigence des Lumières n'a pas empêché un certain nombre de considérations qui vont d'ailleurs contre. Qui sont contradictoires avec l'idéal des Lumières. Quand Kant écrit une anthropologie où il traite une humanité non européenne de la manière dont il la traite, ce ne sont plus les Lumières. Quand les Lumières s'accommodent de l'esclavage, ce ne sont plus les Lumières. Et surtout, il faut aussi ajouter une chose, c'est que les Lumières, ce ne sont pas simplement cette idée qu'il faut oser utiliser sa raison, ce n'est pas simplement une invention de l'Europe à partir d'un certain siècle dit des Lumières et d'une certaine géographie qui correspond à la géographie européenne. Oser utiliser sa raison, c'est une chose, par exemple, que dit un penseur comme Averroès en Andalousie au XIIe siècle. Donc les Lumières ont des lieux multiples, des géographies multiples et des histoires multiples.
Ulrich Metende, vous n'êtes pas loin de partager, je pense que vous partagez même la vision de Souleyman Bachardiaï dans votre livre qui étudie la relation à la Terre et la nécessité, selon vous, de décoloniser les esprits, en quelque sorte. Vous partagez cette vision?
Tout à fait. Je pars justement du postulat selon lequel la colonisation aura été un fait résultant justement de cette hégémonisation de la raison au sens où elle a été construite par la philosophie des Lumières.
Vous écrivez, il faut décoloniser les imaginaires et politiques qui structurent une approche écologique, parce que vous vous intéressez au sort, à l'écologie, à l'avenir de la Terre, de la planète.
Oui, effectivement, l'avenir de la Terre, l'avenir de la planète, mais dans un contexte, on va dire, assez particulier, celui de la période qui vient après la colonisation. Mmh. Et forcément, dans ce contexte-là, il faut restructurer l'esprit, il faut restructurer les manières dont on entretient les rapports, on construit les rapports avec le vivant, avec la Terre, pour sortir justement de cette logique hégémoniste et à coup sûr instrumentale dans laquelle justement nous aura plongé cette rationalité qui découle de la période dite des Lumières.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Souleyman Bachardiaï, au cœur de ce livre, au cœur de ce thème de l'universel, il y a la notion de citoyen. Faut-il être citoyen d'un pays, 193, il me semble, aujourd'hui reconnu aux Nations Unies, ou être citoyen du monde? Ou les deux, peut-être?
Ah oui, il faut être les deux. Évidemment, on est citoyen de son pays, c'est une chose, mais il faut être citoyen du monde. Et il faut se rappeler, par exemple, qu'une philosophe importante comme Hannah Arendt, à un moment donné, s'est intéressée, s'est inquiétée de ce qui arrivait aux réfugiés, aux très nombreux réfugiés qui circulaient en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et à la question des apatrides.
Oui. Voilà donc des personnes qui sont sous la protection d'aucune nation et qui, semble-t-il donc, sont dépourvus des droits élémentaires que l'on reconnaît à des citoyens de certains États-nations. Eh bien, l'idée qu'il y avait là une citoyenneté humaine et qu'il fallait que tout le monde ait des droits qui soient reconnus, et simplement parce qu'il s'agissait de droits reconnus à l'humain en général. Et cette idée qui est au fond la signification du cosmopolitisme, être le citoyen du monde. il nous appartient aujourd'hui de la remettre, en chantier et de penser une citoyenneté du monde que commandent d'ailleurs les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et là où je rejoins le propos d'Ulrich, par exemple, c'est que la crise environnementale commande que nous sachions être une seule et même humanité parce qu'elle s'adresse à nous comme étant une seule et même humanité.
Et Ulrich, cette terre, cette écologie doit s'inventer, se réinventer en quelque sorte, notamment en Afrique.
Tout à fait, elle doit se réinventer, mais pas qu'en Afrique, mais bien évidemment
sûr,
à partir de l'Afrique. C'est en quelque sorte ça le propos de mon livre. Et je rejoins également Souleymane Bachir.
Alors vous êtes vraiment
tout
fait
à fait,
pour vous entendre.
Tout à fait. Et moi, j'emprunte un concept à un autre penseur, Achille Mbembe, le concept de communauté terrestre, pour démontrer effectivement que dans la perspective de l'universel, il faut également construire une sorte de l'universel de l'habité. Et cet universel de l'habité passe par le sentiment de l'appartenance à cette communauté terrestre. La Terre étant ici une utopie, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours en avant de nous et par conséquent qui dépasse nos aspirations, qu'elles soient personnelles ou qu'elles relèvent même d'une quelconque forme de rationalité. Et je voulais peut-être revenir sur un élément important. C'est un moment dans ce que j'appelle l'occidentalisation du monde qui est justement ce moment où la rationalité ou cette philosophie des Lumières se propage à travers le monde. Et c'est ce moment-là qui est au cœur même de la colonisation et qui par la suite continue à avoir des répercussions dans le monde dit postcolonial. C'est la raison pour laquelle je postule à la nécessité d'une décolonisation des imaginaires, une décolonisation même du rapport que nous avons avec la Terre. Parce qu'aujourd'hui, dans des contextes, on va dire, post-coloniaux, et dans un pays comme le Cameroun, qui est justement le terrain...
Qui est le vôtre.
Effectivement, le pays qui m'a vu naître, et duquel je suis parti, du moins je ne vis pas dans ce pays depuis un certain nombre de temps, mais qui m'habite partout où je suis dans mes imaginaires, dans la manière de construire ma pensée, où on retrouve effectivement les rémanences de la colonisation dans le rapport au vivant, le rapport à la terre, le rapport aux espaces et le rapport à la vie d'une manière générale. Et cela résulte également d'un processus que j'appelle une politique de la mort. Une politique de la mort qui est administrée non seulement la mort pour les vivants qui sont en quelque sorte inertes dans la mesure où ils sont embrigadés dans une logique instrumentale, capitaliste bien évidemment, mais aussi une politique de la mort dans le cadre du rapport que nous entretenons avec les autres vivants, humains et non humains. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire aujourd'hui de penser cet universel de l'habité à partir du principe de la communauté terrestre.
C'est ce que vous appelez, Ulrich, l'écologie de la libération ?
Effectivement, c'est ce que j'appelle l'écologie de la libération, c'est-à-dire un mouvement à partir duquel on pense l'écologie comme un phénomène total, un phénomène politique, bien avant tout, non pas de considérer l'écologie uniquement sous le prisme d'un certain nombre de revendications liées à la pollution, à la destruction des écosystèmes, etc., mais d'inscrire l'écologie au cœur même de la politique, faire de l'écologie la matrice de la politique. Et à partir de cette perspective, on sort bien évidemment des logiques instrumentales, mais aussi on réapprend à vivre avec les vivants, humains et non humains, comme je l'ai précisé. On réapprend également à habiter la Terre, et aussi parce que la Terre, dans les cosmologies africaines, et plus précisément camerounaises que j'ai étudiées, est un héritage qui se transmet de manière générationnelle, et du coup, il faut reconstruire ce lien, retisser les liens qui ont été rompus avec la rationalité instrumentale, capitaliste et prédatrice que nous aura imposé d'une certaine manière la philosophie des Lumières lorsqu'elle s'est exportée dans des continents autres que l'Europe, notamment en Afrique.
Et Souleymane Bachir Diagne, vous partagez cette analyse ?
Alors, je partage évidemment tout ce que Ulrich vient de dire sur la valeur, la validité des cosmologies africaines qui sont en effet des cosmologies de la continuité du vivant, l'humain n'est pas un empire dans un empire qui serait séparé et qui se tiendrait en face de la nature. Et il a parlé de prédation. J'ai des nuances, plus peut-être que des nuances, quand il s'agit de condamner la raison issue des Lumières. Je suis un rationaliste forcené. Je crois profondément que la construction de notre humanité, contre tous les obscurantismes d'aujourd'hui qui participent de la fragmentation précisément de cette humanité, eh bien, la construction de cette humanité passe par la confiance dans la science et dans une raison partagée. Mais je comprends très bien, en effet, la notion de raison instrumentale qu'il a employé. Et donc, cette raison instrumentale, c'est celle, par exemple, qui considère, qui réduit la nature en des ressources naturelles. Donc, moyennant cette nuance, nous sommes tout à fait d'accord.
Vous êtes aussi un rationnel, un homme de la raison, Ulrich?
Bien évidemment, je suis un homme de la raison. Et de toute évidence, la raison, elle est là. Elle s'offre à nous comme un outil qui permet justement de penser le monde, de repenser cette habité. Mais aussi, il faut, de mon point de vue, embrasser d'autres formes de rationalité.
Par exemple?
Et c'est la raison pour laquelle, moi, je postule, par exemple, à une forme d'écologie des savoirs, le fait aussi de repenser notre lien à la terre, notre lien au vivant, à partir des savoirs endogènes. Des savoirs...
Et d'ailleurs, vous préconisez une espèce de pont des savoirs, en fait, un échange des savoirs.
Effectivement, il faut nécessairement un pont des savoirs, dans la mesure où on a tendance à minoriser un certain type de savoir, les taxant de savoir qui n'ont pas de valeur au sens de la recherche des outils pour le développement, par exemple. On a tendance à les catégoriser comme des savoirs irrationnels, le plus souvent, mais pourtant, c'est des savoirs qui, dans un contexte ici, ont une certaine valeur, une portée et sont vecteurs d'une épistémologie et qu'il faut nécessairement associer à des savoirs dits rationnels au sens occidental du terme pour construire des ponts et à partir de ces ponts repenser effectivement le vivant et ce que j'appelle le tout vivant parce que le vivant n'est pas que visible, il est aussi invisible.
De ce numéro d'idées, nous sommes en compagnie ce dimanche de Souleymane Bachir Diagne qui vient d'écrire « Universaliser l'humanité par les moyens d'humanité » chez Albin Michel dans la collection Bibliothèque des idées, justement. Nous sommes également en compagnie de Ulrich Mettende, philosophe qui enseigne notamment aux États-Unis et qui vient d'écrire « Du désir de vie » et c'est sur une écologie de libération en post-colonie publié chez Herman. Souleymane Bachir Diagne, dans votre livre Universalisé, vous écrivez ceci, vous posez la question, hein. Un cosmopolitisme postcolonial est-il une utopie philosophique? C'est bien ainsi en effet que l'histoire des décolonisations après 1945 nous fait voir avec le recul cette idée. Utopie ou pas?
Il y a un aspect utopique dans la mesure où tout idéal que l'on projette, qui n'est pas encore là, est une utopie. Mais j'utilise aussi le mot d'aspiration, mmh. une aspiration commune, une aspiration à l'humanité. Et cette aspiration est réelle parce qu'elle nous commande de la réaliser. Une utopie, si vous voulez, qui nous mobilise, qui devient un idéal à réaliser, cesse d'être une utopie. Donc voilà la réponse que j'apporterai à ma propre question en disant qu'il ne s'agit pas d'une utopie, ou en tout cas qu'il s'agit d'une utopie à réaliser et dont il faut faire en sorte que ce ne soit plus simplement une utopie. Et encore une fois, les défis qui sont les nôtres le commandent de toute façon. Et par ailleurs, nous avons les moyens aujourd'hui de construire cette utopie à condition que nous sachions sortir de la fragmentation qui est la nôtre et d'une simple juxtaposition d'identités qui seraient des identités qui ne communiquent pas et des cultures qui se développeraient selon des trajectoires parallèles qui ne se recoupent pas.
Souleymane Bachir Diagne, dans votre livre, il y a également Simone Veil, la philosophe Simone Veil, qu'on connaît souvent pour son livre sur l'enracinement. Vous analysez ses propos sur ce thème de l'universel, propos de Simone Veil qui incite le lecteur au décentrement.
Absolument. Alors,
c'est-à-dire pour sortir justement de cette exclusivité que l'Europe a bien voulu s'offrir en matière de philosophie.
Oui, je crois qu'il est important de relire ces textes de Simone Veil, les textes qu'elle a écrits sur le colonialisme. Elle déclare elle-même qu'elle découvre le colonialisme en 1931, à la suite de ce qui s'est passé en Indochine. Et depuis, elle n'a cessé d'écrire des textes
Où
elle demande pardon en plus. C'est vraiment la repentance, ce mot honni aujourd'hui. Mais les textes de Simone Veil, par certains aspects, sont des aspects de repentance. Et ce n'est pas simplement une repentance où on se bat la culpe. Et elle a l'impression, elle dit qu'il faut travailler à dépasser la situation coloniale. Alors l'originalité de sa pensée, c'est de dire qu'il faut sortir de la situation coloniale par le haut, en quelque sorte, en généralisant et en universalisant la citoyenneté. Si tout le monde est citoyen, eh bien l'empire cesse d'être un empire pour être une forme de réalisation du cosmopolitisme. Voilà une forme d'utopie qu'elle développe avant-guerre, une utopie qui s'est poursuivie d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'idée de sortir du colonialisme par la généralisation de la citoyenneté a été agitée par la première constituante après la Deuxième Guerre mondiale, et elle est à l'origine d'une loi qui a été prise, qui s'appelle la loi Lamine Gay, de mon compatriote Lamine Gay qui l'a portée.
Du 25 avril 1946.
Exactement, qui accordait la citoyenneté aux habitants de la colonie. Et tout de suite, il y a eu un retour en arrière. Cette citoyenneté a été encadrée de telle sorte qu'elle soit vidée de sa signification pleine et entière. Mais il était important de revenir sur cet épisode, sur ce moment d'utopie où on a pu penser que des penseurs non seulement comme Senghor ou Césaire ont pu penser cela, mais également quelqu'un comme Samir Amin qui en parle, où on a pu penser qu'on pouvait transformer le colonialisme en cosmopolitisme, c'est-à-dire en une véritable citoyenneté universelle.
Avec aussi, à propos de Samir Amin, cette notion d'assimilation.
Oui.
Qui a été très forte à une époque, et qui est toujours très forte d'ailleurs. D'ailleurs, vous revenez sur cet épisode, le fameux « Nos ancêtres les Gaulois ».
Oui.
Cette volonté d'apprendre l'histoire de la France au moindre citoyen français en dehors des frontières françaises.
Exactement. Alors, ça correspondait évidemment à cet universalisme français qui se refusait à faire des programmes différenciés selon les géographies. Universalisme pour lequel il n'était pas question d'enseigner un programme d'histoire à Paris qui ne fut pas le même à Madagascar, par exemple.
Donc il y avait une volonté d'égalité.
Il y avait, et qui a été revendiquée dans l'autre sens, c'est-à-dire que des instituteurs dans les colonies à qui on proposait des programmes adaptés à leur situation, disait, mais non, nous exigeons d'avoir exactement le même système éducatif que le centre, parce que nous ne voulons pas une éducation au rabais. Alors, il faut revoir toute la complexité des questions sous cet angle-là, pour bien comprendre, encore une fois, la signification que le mot d'assimilation a eue à un moment donné.
Oui, c'est-à-dire une volonté de mettre sur un pied d'égalité tous ceux qui étaient devenus citoyens de l'Empire, entre guillemets, français, à partir de 1946.
Exactement. L'idée de dissoudre l'Empire par l'égalité et de faire porter cette égalité à la notion de citoyenneté universelle. Évidemment, on est revenu de cela, et ensuite oui. Les luttes pour les décolonisations se sont engagées, mais il était important d'évoquer ce moment-là, ce moment où l'idée de faire basculer l'Empire dans le cosmopolitisme n'a pas semblé une idée absurde ni utopique.
Ulrich Mettende, est-ce que ce mot, ce concept de cosmopolitisme résonne en vous ?
Oui, bien évidemment, il résonne en moi. Peut-être pas en les mêmes termes que...
C'est pour ça que je vous posais la question, il y a un petit sous-entendu dans ma
que
question.
Ce qu'emploie Suleymane pour en parler. L'idée de cosmopolitisme, moi, je me la représente à partir justement de ce que j'ai dit au préalable, qui est la communauté terrestre, qui, de mon point de vue... devrait constituer aujourd'hui l'utopie vers laquelle l'humanité devrait converger. Et je l'illustre par exemple en parlant du phénomène migratoire, ce qu'on appelle communément le phénomène migratoire. Et je représente en fait ces entités, ces individus, comme ceux qui aujourd'hui portent en quelque sorte les germes de ce que devrait être cette communauté terrestre, parce qu'ils occupent des espaces qui leur sont a priori interdits, c'est des déserts, c'est des forêts, ils habitent ces espaces. Et ils sont animés par une volonté de reposséder ce que j'appelle aussi la terre du monde. Parce qu'au final, ce qui doit constituer notre horizon, c'est justement le monde, et c'est la terre qui est notre lieu commun, le lieu que nous habitons tous, le lieu à partir duquel nous devons ériger une humanité où il n'existerait pas de différence, il n'existerait même pas de frontières, où toutes les entités seraient similaires, voilà. Que ce soit d'un point de vue de l'éducation ou d'un point de vue de la culture. Et peut-être je voulais revenir sur la notion d'éducation, et c'est très important ce qu'a révélé Suleymane par rapport à cet égalitarisme qui a essayé d'être construit à un moment donné de l'histoire. Pour dire, justement, après la colonisation, les mouvements de décolonisation, il aurait été tout à fait important ou nécessaire de décoloniser aussi les systèmes éducatifs en Afrique. Moi, je viens d'un pays où, par exemple, les programmes scolaires du primaire à l'université sont calqués sous le modèle colonial. Et du coup, avoir une connaissance parfaite sur l'histoire, les mouvements, les luttes, émancipatrice, etc., en rapport avec l'histoire du Cameroun, il n'en existe presque pas en manière de se, à défaut de s'ériger en autodidacte. Des figures comme Ruben Oumniobé, dont on vient de célébrer par exemple les 66 ans de l'assassinat par l'armée coloniale française, moi ne m'ont jamais été enseigné, et c'est par la suite que je me suis de manière autodidacte appris tous ces mouvements-là. Donc c'est nécessaire aujourd'hui aussi, lorsqu'on parle de l'écologie de la libération, d'intégrer les aspects liés à l'éducation, liés à la culture, à la manière dont nous devons nous réapproprier tous ces lieux qui sont l'éducation, la manière dont nous devons réhabiter même notre histoire aussi.
Suleymane Bachardiane, je vous voyais opiner.
Oui, j'étais en train de penser, lorsque Ulrich parlait de l'enseignement de l'histoire, j'étais en train de penser justement à la commission qui a été mise en place récemment, une commission mixte à la fois camerounaise et française, pour regarder la décolonisation en particulier, l'histoire de l'UPC dont vient de parler Ulrich, et je suis cela de manière d'autant plus attentive que d'abord, c'est important, et deuxièmement, une amie personnelle, celle avec qui j'ai écrit mon livre d'entretien intitulé Ubuntu, Françoise Blum, est membre française de cette même commission. Et Ulrich a mille fois raison, il est important évidemment d'enseigner l'histoire africaine, en n'oubliant pas non plus que l'éducation, le côté universel de l'éducation, cela signifie aujourd'hui que notre continent a besoin en particulier de développer ce qu'on appelle les STEM, les sciences, les techniques, les mathématiques et les sciences de l'ingénieur. Il n'y a pas que les humanités et les sciences sociales lorsque l'on parle d'une décolonisation de l'éducation. Décoloniser l'éducation, c'est également se poser des questions du genre, comment faire en sorte de mieux enseigner la chimie ? Comment faire en sorte de mieux enseigner la physique ? Comment faire en sorte que les STEM soient au cœur de notre projet éducatif et en particulier que les filles dans les STEM, parce que c'est là également une chose qu'il est important de souligner, que les filles aillent dans cette direction-là, parce que notre continent se construira sur la base de cette éducation ainsi pensée en direction de l'avenir, et non pas seulement sur une revendication d'une éducation propre. Alors, dans ce cadre des sciences à conquérir, il est important de mettre un accent tout particulier.
Suite de ce numéro d'idées, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Souleymane Bachir Diagne qui a écrit « Universaliser l'humanité par les moyens d'humanité », un livre, un essai publié chez Albin Michel, en compagnie également d'Ulrich Mettende qui vient d'écrire « Du désir de vie » publié aux éditions Hermann. Pour que les choses soient claires, Souleymane, vous écrivez ceci « La civilisation de l'universel n'est pas une civilisation universelle ». La phrase me semble déterminante.
Elle est essentielle parce qu'en effet, une civilisation universelle, ça voudrait dire une sorte d'homogénéisation, d'uniformisation, qu'il y aurait un foyer de civilisation qui aurait vocation à se répandre dans le reste du monde. Une civilisation de l'universel, ce « de » nous permet au contraire de mettre l'accent sur la rencontre, sur le fait que cet universel ou cette pratique d'universalisation, d'où l'infinitif, le verbe universaliser à l'infinitif dans mon titre.
Le titre,
oui. Et cela convoque, si vous voulez, les cultures, les langues, la diversité du monde, la différence qui est la nôtre, pour ensemble forger ou réinventer cet universel pour notre siècle.
Avec un terme qui vous est cher, Souleymane Bachir Diagne, la traduction.
Avec la traduction, précisément, parce que ce qui fait que les cultures et les langues se parlent et ne sont pas simplement des isolats ou des insularités, c'est que la traduction est toujours possible. La traduction, c'est d'abord cette affirmation que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, qu'il y a de l'intraduisible, que je peux rencontrer de l'opacité, mais qu'au bout du compte, je peux toujours donner hospitalité dans ma langue à ce qui s'est pensé et créé dans une autre langue.
Il y a une phrase d'Aimé Césaire que vous reproduisez et que je trouve formidable. Il parle, à propos des indépendances, de l'heure de nous-mêmes, l'heure de nous-mêmes a sonné.
Oui, mais je crois que c'est la formule la plus heureuse qui soit pour dire précisément que la vraie indépendance, c'est la reconquête de sa capacité d'initiative. La capacité que l'on a de conduire sa propre destinée, de se donner son propre agenda, à partir duquel, évidemment, on peut construire toutes les ouvertures, tous les partenariats, à la condition d'être au clair soi-même sur l'agenda que l'on a à suivre. Et cette phrase me semble magnifique, comme seul un poète peut en forger, un poète comme Aimé Césaire. Et j'indique d'ailleurs là-dedans que je trouve que cette phrase, « L'heure de nous-mêmes a sonné », est aussi un peu en écho à une déclaration de Barack Obama. On cite souvent « Yes, we can », mais il y a aussi cette magnifique déclaration « We are the ones we've been waiting for ». Nous sommes ceux que nous attendions. Et dans les deux cas de figure, il s'agit en effet de dire que la vraie décolonisation, c'est le fait de retrouver sa capacité d'initiative et sa capacité d'orienter son propre destin.
Ulrich Mettende Aimé Césaire qui écrivait ceci, « Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers ». Votre avis aussi.
Je suis tout à fait d'accord, j'adhère à ce que dit Césaire.
Et passage aussi, que j'ai lu dans le livre de Souleymane Bachir.
Tout à fait, et j'allais justement évoquer le fait que Souleymane Bachir, qui est un philosophe de la traduction, comme aime à le rappeler Jean Godefroy Bidima, un autre philosophe camerounais, justement cette pensée de la traduction rejoint tout à fait ce que j'appelle moi le pont épistémologique, parce qu'on va à la rencontre. Il y a de la réceptivité et il y a également de la diffusion qui peut s'opérer, mais tout en ne minorisant pas une quelconque entité et en évacuant pas les particularités. Elles seront toujours là, les particularités. Déjà le fait que chaque être, il est particulier.
Mais, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chasser une supériorité décrétée, celle de l'Occident, au profit d'une autre suprématie. Toutes les cultures, toutes les langues doivent être respectées et être traitées sur un pied d'égalité.
Tout à fait. Et c'est justement ça l'enjeu. C'est l'Occident, il sera toujours là. Parce que parler de la décolonisation, parler de la reprise de soi en Afrique, ce n'est pas du tout évacuer la place de l'Occident ou l'apport. Il sera toujours là, l'Occident, mais la nécessité est de penser une Afrique qui se construit, qui se pense à partir d'elle-même et qui se définit comme son propre centre et le centre à partir duquel il va à la rencontre du monde. Forcément, on ne peut pas vivre en vase clos. Il est nécessaire de continuer la relation, mais en la sortant d'un certain nombre de clivages qui ont tendance à faire de l'Afrique une périphérie et les autres des centres. Donc, du coup, il faut nécessairement une sorte d'égalité entre les différentes entités, les différents acteurs. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins effectivement ce que disait Souleymane Bachir tout à l'heure.
Il s'agit en quelque sorte d'être fidèle à Henri Bergson, que vous citez aussi dans votre livre, Souleymane Bachir Diagne, passer du clos à l'ouvert.
Oui, en effet, sortir du clos et aller à l'ouvert, le clos, c'est la tribu, c'est l'enfermement identitariste précisément. Et évidemment, la tribu, d'une certaine manière, est toujours inévitable. Bergson nous dit qu'il y a un instinct pour la tribu. En effet, instinctivement, nous sommes attachés à ce qui nous ressemble, à ce qui appartient au même clan que nous. Maintenant, il s'agit pour nous, humains, de remplir la mission qui est la nôtre, d'obéir à cette responsabilité qui est la nôtre, de construire une humanité commune à partir de notre dispersion et de notre fragmentation en tribus. Et donc, la religion, par exemple, qui est un facteur de cohésion, qui peut être un facteur de clôture sur soi, n'est véritablement elle-même que lorsqu'elle obéit à cette autre étymologie qui est celle du mot « religion », c'est-à-dire mettre en relation, la relation, et donc nous ouvrir sur une humanité partagée. Et je prends l'exemple de la religion parce qu'il est au cœur du propos de Bergson, et c'est bien sur ce point-là que nous pouvons voir en quoi la religion peut être facteur de clôture, instrumentaliser pour affirmer sa différence et au nom de cette différence en s'engager dans les actions que nous dicte ce que Amin Maalouf a appelé des identités meurtrières, ou au contraire précisément comprendre le meilleur de la religion, cette invitation de la religion à considérer que mon prochain, ce n'est pas forcément mon proche, et à embrasser une humanité au-delà de l'exemple que m'en donne mon clan ou ma tribu étroitement définie.
Et vous concluez votre livre, Souleymane Bachandiagne, avec un mot bantou, Ubuntu.
Ce mot Ubuntu...
Cher
à Nelson Mandela, et c'est un mot auquel j'ai été très attentif pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que quand nous parlons de philosophie africaine, la manière dont ce mot a été construit pour devenir un concept opératoire en politique nous indique ce qu'est la vraie démarche de la philosophie africaine. Comprendre que les concepts se construisent à partir des mots de la langue. Le mot Ubuntu est un mot totalement banal dans toutes les langues bantoues parce qu'il est en fait au cœur même de ces langues-là. On le retrouve sous des formes différentes.
Qui veut dire respect ? Enfin, c'est difficile de traduire. Alors, c'est un concept, donc il y a plusieurs choses dans ce concept.
Le philosophe Alexis Kagame, qui a écrit un livre très important où il a une approche linguistique et philologique très précise sur, en comparant plusieurs langues bantoues, nous dit que le « ou » ajouté à un mot, c'est justement le passage du concret à l'abstrait. « Muntu » étant l'humain, « ou » Buntu devient humanité. C'est comme cela qu'on fabrique de l'abstrait. Mais, dit-il, ça ne signifie pas simplement humanité au sens de la totalité des humains, ça signifie également humanité au sens de se montrer humain. Et libéralité, générosité. Bref, c'est un mot qui a un champ sémantique très large dans les différentes langues. Et c'est à partir de ce champ sémantique qu'il a été construit de manière très précise par Nelson Mandela et Desmond Tutu, pour signifier la capacité de devenir humain ensemble. J'utilise la notion, la phrase « faire humanité ensemble » et le faire dans la réciprocité, parce que les deux sont importants. D'abord, être humain ensemble, et également l'idée de réciprocité, c'est-à-dire « je réalise mon humanité pour autant que tu réalises la tienne ». Et donc, nous aidons dans la réalisation de notre humanité, de nos humanités individuelles et collectives. Et la manière dont ce concept est devenu un concept philosophique de philosophie politique, c'est précisément la manière dont il a été inscrit dans la première constitution de l'Afrique du Sud. Il a disparu dans la constitution adoptée de manière plus permanente, mais l'idée était celle-là. Nous sortirons de l'apartheid, c'est-à-dire de l'idée de développement séparé de nos cultures, lorsque nous aurons appris à faire humanité ensemble et à nous engager dans la voie de construction d'une nation qui soit une nation au-dessus des tribus, ce qui a été appelé de manière poétique la nation arc-en-ciel.
Et puisque nous en sommes au concept et aux mots, Ulrich Mettende, qu'est-ce que la plantocratie ?
Alors, la plantocratie, c'est un néologisme qui renvoie à une réalité qui est gouvernée de manière politique, de manière économique, par les logiques de la plantation. La plantocratie est le propre même des politiques de la mort, de par les mécanismes qui y sont employés, la mise en exploitation des corps, le plus souvent les corps racisés, les corps noirs, les corps féminins, les femmes aussi, voilà, et aussi les logiques extractives, l'extraction des ressources, etc. Et la déforestation, si, d'une manière générale, cet assaut qui est exercé sur ce qu'on a appelé la nature, en fait, parce que forcément, il y a la construction des dichotomies entre, d'une part, la nature et, de l'autre part, la culture, contribue à ce qu'aujourd'hui, on exerce une sorte d'emprise, une sorte de prédation, je vais revenir sur le concept de prédation, sur ces espaces-là que constituent les forêts, que bien sûr il faut absolument s'en approprier pour établir des plantations, et elles sont nombreuses, des plantations de palmiers, des plantations de coton, etc., et dans des vastes territoires, et des politiques d'expropriation qui sont organisées, parce que les terres qui, dans beaucoup d'entités, beaucoup d'espaces, appartiennent à la communauté, sont privatisées, la logique de la privatisation. Et le plus offrant, nécessairement, s'accapare du maximum de terres possibles et en fait des espaces privés et érige des plantations. Et ce système est celui à partir duquel organise toute la vie politique dans plein d'espaces où les logiques d'instrumentalisation, effectivement, et les logiques d'exploitation sont mises en œuvre pour extraire le maximum possible de la force, de l'énergie, des ressources, de la rentabilité de ces espaces qu'on détruit au passage. C'est une manière d'occuper, non pas d'habiter, une manière d'occuper ces espaces. Donc, il faut sortir de la plantocratie et réapprendre à habiter pleinement la terre.
Et se réfugier dans ce beau mot d'Ubuntu dont nous parlions à l'instant.
Oui, effectivement, ce beau mot et plein d'autres. Et je voulais peut-être aussi rajouter, en fait, c'est que, et c'est ce que Souleymane il a dit, c'est très important, le fait que les langues, surtout les langues africaines, ont ce site particulier, c'est qu'elles renvoient à plusieurs réalités. Un même mot renvoie, un concept renvoie à plusieurs réalités. J'ai pour habitude de dire que moi, je suis originaire du centre Cameroun, je parle une langue qui s'appelle le Béti, et que dans ma langue, le concept de travail, il renvoie à deux réalités. Aux soins, parce que quand je vais voir le médecin, c'est le même concept que j'utilise pour dire je vais voir le médecin pour me faire soigner. Et ce concept renvoie aussi au travail, au labeur. Et du coup, ça fait en sorte que dans le rapport que dans ma communauté, on entretient avec le vivant, il y a toujours ce rapport aux soins. Au fait de se dire, on travaille, oui, mais on doit prendre soin de la terre aussi parce qu'on la transmet aux générations. Et je prends un exemple, un récit, celui de l'histoire de ma propre famille qui est installée à un lieu qui n'est pas le sien de manière ontologique. C'est, ma famille a été déplacée d'un lieu pour un autre et parce qu'elle est installée dans ce lieu, elle ne dispose pas des terres qui lui sont propres. Mais parce qu'elle est installée là, elle est obligée de demander à des autorités traditionnelles, de demander des terres pour les cultures, etc. Mais parce que ces terres ne nous appartiennent pas d'office, on doit en prendre soin, sinon quand on reviendra lors des prochaines saisons pour cultiver, on ne nous donnera pas des terres parce qu'on ne les a pas, on n'en a pas pris soin. Donc je prends cet exemple pour dire, dans les langues africaines, il faut nécessairement aller chercher des outils qui permettent justement de penser de nouvelles utopies et de nouvelles manières d'être en relation avec le tout vivant.
Merci Ulrich Metende. Vous avez donc écrit « Du désir de vie », et c'est sur une écologie de libération en post-colonie, livre publié chez Herman et Kala aussi. Merci Souleymane Bachir Diagne d'être venu nous voir dans cette émission. Vous avez écrit, vous, « Universaliser l'humanité par les moyens d'humanité », un livre publié chez Albin Michel dans la Bibliothèque des idées. Ce fut un plaisir de vous recevoir tous les deux. C'est la fin de ce numéro d'idées, réalisé évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez-nous sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio ou votre moteur de recherche préféré. Nous vous donnons rendez-vous bien sûr dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.